effectivement, on a des questions qui se posent. Et, bon. Donc, Julien, c'est à toi quand tu veux.
Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour, je m'appelle Julien. Je m'excuse pour la qualité de ce graphe. Je ne peux pas mieux faire en termes de qualité. J'espère que ça reste lisible. L'idée de cette présentation, c'est quoi ? C'est une présentation de la scène punk en 2016 à Toulouse. Je vais essayer de tenir les 20 minutes. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est un exercice. À la base, moi, ce n'est pas du tout mon sujet de prédilection. Je suis un peu entre recherche, on va dire, et activisme. Je joue dans plusieurs groupes de punk et de hardcore à Toulouse. J'organise quelques concerts et depuis peu, je suis aussi dans la recherche puisque je suis doctorant en sciences de l'éducation à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Voilà. Donc l'idée, c'était un peu d'interroger l'idée d'une scène punk toulousaine avec un regard pas historique, parce que je ne suis pas historien, mais plus sociologique et psychosocial, on va dire. Voilà. Voilà, je me suis basé sur deux approches théoriques, on va dire, celle de l'identité sociale et celle de la dynamique des groupes restreints. J'en parlerai rapidement plus tard. Le graphe que vous avez là, en fait, c'est une espèce de représentation spatiale. Donc, je vous explique vite fait comment ça marche. Les trucs qui sont centraux, c'est ce qui est le plus partagé par les différents sous-groupes. Et en fait, plus on s'éloigne du centre, plus c'est des spécificités en fait, particulières. Voilà. Donc, j'espère que vous arrivez à lire à peu près, mais j'en parlerai, ça fera peut-être sens. Voilà. La scène punk toulousaine, l'idée principale, et qui se voit ici, c'est qu'on ne peut pas la réduire à un seul groupe homogène. En fait. On distingue plusieurs sous-groupes qui sont liés à des sous-genres de punk, qui ont des repères et des identités qui sont spécifiques. On a des groupes qui sont relativement proches et souvent en contact, d'autres qui sont plus éloignés et rarement en contact. Sachant que là, cette représentation, elle se base surtout sur les groupes d'organisateurs, pas forcément sur les groupes musicaux. De façon générale, on constate que le punk sur Toulouse, c'est une musique qui est majoritairement blanche et genrée. La plupart des groupes y restent majoritairement composés d'hommes, blancs, employés ou étudiants, qui sont issus de familles modestes ou de classes moyennes. Certains lieux et certains groupes se forment et se positionnent en réaction à cette dominante. On a par exemple le TDB à Toulouse, qui est un squat féministe, trans-pédéguine. Voilà, enfin, j'en reparlerai un peu plus tard. En 2007, la scène punk à Toulouse, elle n'est pas spécialement dangereuse ou antisociale, comme elle pouvait l'être à une certaine époque et dans certains pays, dans le sens où à peu près n'importe qui peut se rendre à un concert sans avoir de problème. C'est un vecteur de socialisation et d'émancipation pour des individus qui ne s'épanouissent pas forcément dans le cadre de leur travail ou dans des formes de loisirs plus classiques, on va dire. La plupart de ces acteurs et ces actrices y sont insérés socialement, même s'ils rejettent parfois les travers de la société dans son ensemble, à des degrés divers et sous des formes différentes. C'est ces degrés et ces formes différentes qui font qu'on a des groupes qui sont plus ou moins éloignés et qui partagent plus ou moins certaines choses. Ils utilisent le punk pour créer une forme d'alternative en cohérence avec leurs valeurs et leurs idéaux propres. Cette scène reste particulièrement alternative et indépendante dans ses modes de fonctionnement. Donc sur le graphe, comme je le disais, on peut repérer visuellement les éléments qui différencient les différents sous-groupes de cette scène et qui se positionnent en fonction d'affinités musicales, de lieux où ils organisent les concerts et de positionnement politique, entre autres choses, et de modes de fonctionnement. Donc j'ai parlé justement du statut et du fonctionnement des groupes d'organisation à Toulouse, des groupes organisateurs, je sais pas comment, les orgas quoi en gros. La plupart des orgas punk, elles ont en commun d'être des associations loi 1901. Plus rarement, il y a des associations de fait, c'est-à-dire en gros des associations de personnes mais qui n'ont pas de statut juridique, et des organisateurs en solo. Qui n'ont pas de statut officiel. Donc les associations qui se revendiquent ouvertement punk, emploi en général pas de salariés. Leur objectif principal, c'est l'équilibre, plus que la recherche de bénéfices quand elles organisent des concerts. Ces orgas, elles sont gérées par des bénévoles qui consacrent un temps libre plus ou moins important. Le nombre de concerts organisés, il varie, parfois largement d'une orga à une autre, c'est-à-dire que ça peut aller de 4 concerts par mois pour certaines assos qui sont très actives à d'autres qui en font par exemple 5 par an. Les rôles à l'intérieur de ces groupes d'organisation, ils sont rarement définis et stables. Ils dépendent des circonstances, motivation, disponibilité, réunion de préparation. Si le statut 19.1 il permet de toucher des subventions, toutes les assos ne demandent pas forcément de subventions de fonctionnement. Parfois par conviction, par volonté d'indépendance, parfois pour d'autres raisons. Certains espaces sont autogérés. On pense par exemple au pavillon sauvage, qui est géré par une association, l'O 1901, les enfants sauvages. Et d'autres collectifs, comme par exemple le CREA ou le TDB dont je parlais tout à l'heure, qui eux sont davantage dans une logique d'occupation non négociée et qui ne sont pas sous forme associative. Quelques concerts punk sont aussi organisés par des associations ou des entreprises qui ne se revendiquent pas forcément nécessairement punk en tant que tel, mais qui ont juste des affinités musicales ou qui aiment ce style-là ou qui veulent faire jouer des groupes punk, c'est très courant. On peut penser justement au Bikini, à des assos comme Progresson, Deadly Rhythm, Public Animals, Useless Pride Records, il y en a d'autres, j'en oublie plein. C'est pas exhaustif. Leur fonctionnement et leur logique, ils sont différents puisqu'elles ont d'autres vocations et que pour certaines, une partie des membres de ces groupes-là exercent une activité salariée principale. Donc c'est ça qui peut parfois faire une différence en termes de fonctionnement. Ceci dit, quand elles organisent des concerts punk, c'est pas forcément par là qu'elles font leur bénéfice maximal et ce sur quoi elles vivent. Ouais. Deuxième idée, c'est des identités musicales qui polarisent et qui font qu'on a un peu cette représentation avec des scènes différentes. Depuis les années 70, le punk, comme tu le disais, il a évolué vers tout et son contraire, notamment sur le plan musical. Si au début des années 80, on pouvait voir des différences notoires ou fin 70 entre l'Angleterre, les États-Unis et la France, aujourd'hui, au sein même d'un pays, en France par exemple, on peut différencier des dizaines de scènes musicales différentes, enfin des sous-genres on va dire, crust punk, goth punk, punk 77, anarcho-punk, punk rock mélodique, punk rock, pop punk, emo punk, skate punk, punk hardcore, street punk, punk français, garage punk, enfin voilà, il y en a plein d'autres. On en retrouve à Toulouse quelques-unes, il n'y a pas tout, mais on a quelques styles qui sont plus ou moins développés et plus ou moins importants, avec plus ou moins de public. Chaque scène elle a un public spécifique qui est plus ou moins fidèle à des groupes musicaux ou à des orgas ou à des lieux de concert. Certains lieux qui sont repérés ont leurs habitués, qui savent généralement ce qu'ils vont trouver dans ces lieux-là, qui vont y trouver, vu que c'est une idée importante de cette présentation, c'est que c'est avant tout un vecteur de socialisation. En allant dans ces lieux, donc on a des bars, par exemple le Kraken, les Pavillons Sauvages, le Ravelin, qui sont clairement identifiés, on sait qui va y avoir plus ou moins, ou quel type de concert on va y trouver. Si les audiences varient selon les soirs et selon les concerts, on retrouve en général dans chaque sous-scène, on va dire, un noyau stable qui est constitué d'un petit groupe de personnes, des fidèles en gros. Si une partie du public navigue d'une scène à l'autre, y compris en dehors du punk, vu qu'on a des gens qui écoutent du punk, mais pas que du punk, qui vont aller à des concerts de pop, qui vont aller à des concerts de hip-hop, de rock, de métal. Certaines sont très étanches l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont fréquenter qu'un seul de ces sous-genres et pas les autres, ou deux, trois, mais qui ne vont pas avoir forcément... Enfin, qui ne vont pas aller dans tous les lieux. Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Alors pourquoi ? D'une part parce que les courants musicaux ont des esthétiques qui sont parfois très différentes, comme tu le disais tout à l'heure, et que c'est rare qu'on se retrouve dans toutes les composantes musicales du punk. C'est-à-dire qu'on a des écarts importants, par exemple, entre des groupes comme Blink 182, Crass, Les Spitz, Fugazi, Guerra, Poubelle, Conflict. On a vraiment des écarts super importants. D'autre part, parce que le public n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes repères et les mêmes représentations en fonction des lieux et des orgas. Si je sais que je vais connaître personne à tel concert, je vais davantage hésiter à y aller, même si potentiellement le groupe peut me plaire. Encore plus s'il joue dans un lieu où je ne me sens pas à ma place, où on me regarde de travers. Voilà. On sait que dans certains lieux, quand on entre, on vous regarde un peu de la tête aux pieds, si vous ne collez pas forcément au public habituel, il peut y avoir du jugement. Voilà. On peut s'interroger justement sur les phénomènes de normalisation et d'exclusion dans des espaces qui, des fois, se revendiquent lutter contre ces phénomènes, mais qui reproduisent la même chose. Il existe des préjugés sur les origines socio-économiques en fonction de la scène à laquelle on vous rattache ou à laquelle on vous catégorise. Le graphique va revenir, mais bon, c'est pas très grave, je peux continuer sans aussi. Et on vous catégorise selon votre style vestimentaire, votre coiffure, votre langage, votre genre, les gens que vous fréquentez, à qui vous parlez en gros, ce que vous buvez, ce que vous mangez aussi des fois, et ce qui fait que vous serez plus ou moins accepté dans ces différents sous-groupes, des fois moqué, ou rappelé à l'ordre, d'un lieu ou à l'autre. Au contraire, si je sais que en gros mes potes vont à un concert, que c'est un lieu où j'ai l'habitude d'aller, où j'ai des repères, même si je vais du coup même pas forcément écouter le groupe en fait, je vais y aller juste parce que je sais que je vais y passer une bonne soirée. Donc en gros, c'est l'idée que les concerts, c'est autant des espaces artistiques, de diffusion artistique, que des espaces de socialisation. Je vais vous parler rapidement du choix des lieux où on organise et du choix des lieux où on joue, qui fait aussi qu'on a des différences entre un sous-groupe et les autres. La plupart des lieux à Toulouse en 2016, ils sont situés, on va dire, juste en dehors de l'hypercentre. Ils sont généralement accessibles en transport en commun, en vélo ou à pied depuis le centre. Certains quartiers concentrent plusieurs de ces lieux. On pense par exemple à des quartiers comme Palais de Justice, Arnaud Bernard, Saint-Aubin, Saint-Cyprien. Voilà. Les conditions d'accueil, elles sont prises en compte dans le choix de ces lieux, selon si le lieu aide à payer les groupes, selon s'il faut louer la salle, s'il faut participer à des réunions de préparation, si on est obligé de mettre l'entrée à prix libre, si le bar est géré par les gens qui tiennent le lieu ou pas, s'il y a des contraintes en termes de niveau sonore, de sonorisation, selon la capacité d'accueil du lieu, la réputation du lieu, la relation qu'on a avec le gérant ou le programmateur. En gros, les différents orgas vont tenir plus ou moins ces éléments en compte. Et les groupes aussi. Pour les organisateurs, ces éléments ils se croisent avec les demandes et les caractéristiques des groupes qui vont faire jouer. C'est ce qui explique en partie pourquoi certains orgas changent de lieu en fonction du concert qu'ils organisent. Pas forcément affiliés toujours au même lieu. Certains lieux ils sont rejetés par certains groupes pour diverses raisons. Elles sont parfois en lien avec des choix et des positions qui sont opposés à leurs convictions politiques. On peut penser par exemple au Saint-Dessin, à cause des photos qui sont affichées à l'intérieur et du concept du bar, c'est-à-dire un château fer si tu montes tes seins. À l'International aussi, qui a été rejeté par certaines orgas récemment, parce qu'ils accueillaient des soirées débats organisées par des chasseurs. Il y a certaines orgas qui ça pose problème. Le Cockney qui s'est monté récemment, un bar qui est tenu par une ancienne figure notoire des Bonnets toulousains. Je ne citerai pas de nom. Ou le local des Occitaners par exemple. Voilà. Donc ça c'est des lieux où certains groupes et certaines orgas refusent d'organiser ou d'aller jouer. Je vais parler, ça m'amène au rapport aux politiques. Donc le rapport aux politiques il peut être très différent d'un groupe à l'autre. On en parlait aussi tout à l'heure. Certains affichent clairement leur position. D'autres, au contraire, revendiquent de mettre la politique à l'écart. Voilà. Entre ces deux positions, on va dire, qui font office d'extrême, on a toute une nuance qui existe, et on a des critiques autant d'une position que de l'autre. Certains lieux et certaines organisations ne tolèrent pas un certain nombre de comportements qu'ils considèrent comme inacceptables. On pense par exemple à l'homophobie, la transphobie, le sexisme, le spécisme, le racisme, les comportements machistes et violents, l'apolitisme. La politisme, pourquoi il est rejeté ? Parce qu'il est souvent considéré comme un couvert à des fréquentations avec des individus ou des groupes d'extrême droite, particulièrement au sein de la scène skinhead. C'est une position historique, le rejet de l'extrême droite, on en parlait tout à l'heure, ça a toujours été présent dans la scène punk, on pense aux Dead Kennedys, Nazi Punks Fuck Off, et depuis tous les morceaux autour de l'antifascisme qui peuvent exister chez les groupes punk. À l'opposé, on a des apos qui revendiquent une mise à l'écart du politique qui considèrent que les groupes politisés sont parfois sectaires et exclusifs. Ils reprochent aux punks politisés de diviser la scène et de refuser tous ceux qui ne sont pas conformes à leurs idées. La question de l'unité est souvent mise en avant, du coup. Là aussi, c'est historique, vu qu'on avait des groupes comme Sham 69, qui chantaient If the Kids Are United, ou Seven Seconds, Rock Together, Walk Together, etc. Enfin, plein de groupes qui étaient dans cette idée d'unité, quel que soit le bord politique. Ils affirment une liberté individuelle dans leur fréquentation et dans les groupes qu'ils écoutent, qui est souvent poussée jusqu'à la provocation et à des rapports assez ambigus, on va dire. En gros, on ne sait pas si c'est par provoque ou si c'est réellement en adéquation avec ce qu'ils pensent. Des comportements qui poussent, enfin qui confortent souvent les antifascistes dans leur représentation vis-à-vis de la politisme. Deux minutes ? Ok. Je vais essayer de faire beaucoup plus vite alors. Entre les deux, on a des positions qui sont plus ou moins souples. Le dialogue est possible au sein des groupes, on accepte de ne pas forcément être en accord avec les gens qu'on côtoie durant les concerts. On y parle occasionnellement des sujets qui fâchent et on y accorde moins d'importance. Elles ne sont pas premières dans l'appartenance au groupe et dans les processus identitaires. Les codes y sont moins rigides, les origines socio-économiques sont moins soumises au regard et aux préjugés et sont plus variées. L'intérêt il est centralisé sur la musique, le fun, la convivialité, les drogues, licites ou illicites. Voilà, là, il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, je n'en citerai pas. Les différences entre ces sous-groupes, ben, c'est des caractéristiques et des pratiques particulières. Je ne développerai pas ce point, mais on a certaines orgas qui lient l'artistique, par exemple avec des expos, des vernissages d'artistes, des lieux qui mettent en avant la non-mixité. Je parlais du TDB tout à l'heure, avec des soirées meufs, trans, pédéguines. Le rapport à la danse, qui peut aussi être différent d'un sous-groupe à l'autre. Et par rapport aux danses violentes aussi, c'est une des thématiques que vous abordiez. Où là, il y a des logiques différentes qui s'opposent parfois au sein du public, entre « je veux qu'il y ait de l'ambiance pour le groupe » et « j'aimerais pouvoir regarder le concert tranquille, sans finir aux urgences ». C'est souvent l'occasion d'ailleurs de conflits dans les concerts, ça arrive. Le rapport aux drogues aussi peut être différent entre d'une scène à une autre. On ne va pas consommer les mêmes substances, on ne va pas avoir la même tolérance par rapport à certains comportements. Le rapport, je parlais d'alimentation tout à l'heure, il y a des orgas qui pratiquent les cantines véganes, ça c'est une autre spécificité par exemple, le rapport au véganisme et au végétarisme. Le rapport aux politiques, j'en parlais tout à l'heure, ça va se manifester par quoi ? Ben, par des actions de soutien, c'est-à-dire en gros dans certaines scènes, des concerts qui vont être clairement affichés comme politiques, en soutien à certaines causes. La gestion du prix libre qui va être différente entre un groupe et un autre, ou les modes de communication, utilisation de Facebook, pas utilisation de Facebook, des plateformes particulières, on passe à Distorama aujourd'hui, FMR c'est aussi ça, ou des sites dédiés comme Concert ou Pizza qui sont qu'on peut repérer facilement sur ce graphe là, en lien avec un sous-groupe plus qu'un autre. Les façons de faire la fête après les concerts, ça va être des DJ sets, ça va parfois être juste de la discussion autour du bar, des sorties dans certains lieux particuliers, une partie de beer pong, peu importe. Voilà. Y a des différences aussi au niveau des groupes musicaux, bon, je ne vais pas en parler, sinon je n'aurai pas du tout le temps. Et donc pour conclure, juste revenir sur deux, trois éléments théoriques, je parlais de dynamique des groupes restreints, donc ça renvoie aux travaux d'Anzieux et Martin. Et je parlais d'identité sociale, ça renvoie plus aux travaux de Tachfel et de Turner. En gros, les trois principes théoriques qui découlent de ça, c'est que les individus ils cherchent à maintenir ou à acquérir une identité sociale positive. Qu'une identité sociale positive, elle est déterminée en grande partie par des comparaisons sociales qui favorisent son groupe d'appartenance par rapport au groupe auquel on n'appartient pas. Et dès lors qu'une identité sociale n'est pas satisfaisante pour soi, les individus ils cherchent à quitter ce groupe ou à rendre le groupe auquel ils appartiennent plus prestigieux. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on a des identités et des sous-groupes qui sont en tension, qui sont parfois opposés les uns par rapport aux autres, parfois pour eux. Cette spécificité, qui est revendiquée par les groupes, c'est une identité groupale qui permet d'évoluer aux individus au sein des groupes en étant à l'aise, en accord avec soi-même, avec les autres membres, puisqu'elle réduit la dissonance cognitive qu'un individu pourrait ressentir s'il voulait embrasser la scène punk dans sa globalité sous toutes ses formes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le punk, en gros, ça ne veut rien dire, vu que c'est des choses qui sont parfois opposées les unes aux autres. Donc en gros, on peut pas être punk dans la généralité du punk. C'est pas possible, à mon sens, en tout cas. Chacun revendique une spécificité du groupe auquel il appartient, qui justifie en général, à travers des arguments historiques, politiques ou artistiques, en niant parfois les systèmes de justification des autres sous-groupes qui se revendiquent aussi punk. En gros, le punk, c'est nous, le punk, c'est pas vous. Juste une citation pour finir, du collectif Propagande Anarcho-Punk, qui est intéressant pour illustrer ça et qui peut ouvrir les discussions. Je vous lis juste le passage. This is anarchy in the UK, fuck the establishment. Punk is an attitude first, not a fashion. Il y aura 40 ans que le single Anarchy in the UK des Sex Pistols sera sorti. N'en déplaise à certains, au punk du week-end, ou au punk par frustration, ou au punk à roulette, street punk oi ou punk mes couilles, punk un jour ou punk bobo, punk pour faire style, punk pour faire chier. Non. C'est la naissance du mouvement punk. Tout a commencé ce jour-là, par ce titre et sa sortie qui fut censuré à cause de son contenu agressif envers l'establishment anglais et la situation du pays. Il fut interdit à la vente. Même s'il y a eu des départs de feu au States, c'est à cette date-là, à Londres, que l'attitude punk est née, par les Sex Pistols, par ce titre. À écouter pour comprendre la pensée, les paroles et le ras-le-bol de la jeunesse. Puis arrive à God Save the Queen en mai 77, censuré également pour son contenu. À écouter et à comprendre surtout. Où étiez-vous ? On était là. Fuck off. Voilà. C'est, ça illustre un peu ça, ce que je disais. Merci. Merci.